Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin et fier partenaire de la Véloroute des Bleuets. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte afin de souligner le 20e anniversaire de la Véloroute des Bleuets. Ce produit touristique majeur du lac Saint-Jean est une belle réussite et un beau travail de concertation des municipalités qui accueillent cette infrastructure. Je félicite tous les gens qui, de près ou de loin, ont fait de ce produit ce qu'il est aujourd'hui. C'est plus de 200 000 personnes provenant de partout au Québec et ailleurs qui profitent de cet aménagement. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion de sillonner cette magnifique route de vélo qui ceinture notre beau lac Saint-Jean, je vous invite chaleureusement à le faire. Merci.
Basketball avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal.
Danny, tu me parles au mois d'août, qu'est-ce qui se passe?
Je te parle au mois d'août parce que comme tout le monde, tout est fucké cette année. C'est 2020, ça va être une année très bizarre. Ça a commencé d'abord avec le basket, hein. Kobe Bryant qui s'en va avec, qui est décédé. Et après ça, on connaît toute l'histoire. Là.
Ouais, écoute, ça a été. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent oublier 2020 le plus vite possible. On est rentré à 2021.
Ah ouais, c'est sûr. Ah, ouais, c'est sûr. Comment tu trouves le basket dans la bubble? Comme qu'on pourrait dire.
Ben, au début, ça faisait drôle. Je regardais beaucoup sur YouTube les vlogs des joueurs, surtout celui de Javale McGee. Fait que je voyais comment ça, je me disais comment ça va fonctionner, mais je pense que la NBA fait un bon. En tout cas, les matchs qu'on écoute à la télé, il y a une petite énergie, il y a une petite. Comment je pourrais dire ça? Il y a du style, tu sais. On voit des visages des gens, là, il y a des gens de télé qui ont mis, là, tu sais. Il y a des spectateurs, tu sais, puis il y a de l'énergie, il y a de l'enthousiasme, tu sais. C'est sûr que c'est pas comme un match avec. C'est un vrai match avec 15 000, 20 000 spectateurs. Là. Mais c'est quand même. Honnêtement, plus je les écoute, plus je suis dans la game. Okay. Fait que je trouve ça le fun par rapport à ça.
Pour
je
les,
que
les joueurs, quand t'as déjà été sur un court, tu connais, tu sais c'est quoi. Ouais. Il doit quand même avoir une différence. Hein?
Mais si je parle pour moi, Danny, là, honnêtement, je pense que de jouer. J'ai eu la chance, tu sais, j'étais au Québec, je jouais des matchs collégiales ou secondaires devant 25, 100, 150 personnes. Puis on dirait que c'est les 150 personnes, ils te connaissent. Tu comprends ça ce que je veux dire? Ouais. Il y a tout le monde qui venait me voir jouer. Mais quand je suis arrivé à l'université, il y a quelques matchs que j'ai joué devant à peu près 10 000 personnes. Quand j'ai gagné mon championnat NCAA, Division 2, il y avait à peu près 10 000 personnes. On dirait qu'il n'y a personne.
Ouais.
Fait que les joueurs NBA, moi, je pense que la plus grosse différence, c'est l'avantage du terrain. Et là, on parle d'un match professionnel. Tu comprends ce que je veux dire par là?
Ouais.
Fait que des fois, à un niveau plus bas, il n'y a pas nécessairement un avantage ou un désavantage de jouer chez toi. Mais dans la NBA, là, moi, j'ai connu, lorsque Samuel Alambert jouait pour les 76ers, j'avais été voir Philadelphie contre Boston à Boston. Écoute, c'était... Je pense que j'aurais même pas été capable de lancer un ballon normal dans un match. Là. Tu sentais la pression. La façon que le monde criait, l'applaudissement, l'atmosphère était phénoménale. Et je pense que ça, dans les matchs saison régulière, c'est correct. Mais dans les playoffs, il faut vraiment que tu te motives parce que tu n'auras pas cette motivation. Il n'y a pas d'avantage du terrain. Là.
Ouais.
Il n'y a vraiment pas. Je pense qu'ils jouent sur trois terrains là, à Orlando. Là.
Ouais.
Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a vraiment pas d'avantage du terrain. Là. Pas parce qu'ils mettent ton logo. Mettons, c'est Los Angeles contre les Clippers, mais c'est le match à domicile des Lakers. Ils mettent le logo des Lakers, puis je sais pas si les fans dans des petites caméras, c'est du monde des Lakers, mais c'est vraiment pas pareil. Puis je pense que où les joueurs vont sentir la différence, mais au moins, lorsqu'ils vont arriver dans les séries, ça va quand même faire, ils vont être quand même habitués. Mm. Mais tu sais, la plupart de ces gars-là, on est habitué de jouer des matchs quand il y a personne, on joue du 5 contre 5, on s'entraîne, tout ça. Fait que je pense qu'ils ont passé de ça, mais c'est vraiment dans les séries que l'avantage du terrain, il n'y en aura pas d'avantage du terrain, selon moi. C'est vraiment l'équipe qui va performer le plus, l'équipe qui va se motiver le plus. C'est les... Tu sais, souvent, on dit...
Parce que t'auras pas Drake cette année. Hein. On dira ce qu'on voudra. Drake
ouais.
A dérangé beaucoup, beaucoup. Là. A joué dans la tête des Warriors l'année passée. On dira ce qu'on voudra, non, là. Mais... Hein?
Ouais, t'as raison. Non, mais c'est ça. C'est... On dit souvent que la foule, c'est le sixième homme.
Ouais,
puis
Drake,
c'est vrai.
L'année passée... Il... Hein?
Ah, non, t'as raison. Qui parle, qui... Tu sais, puis le basket, c'est encore plus près de la foule que, mettons, d'autres sports, tu comprends-tu?
Ouais.
Ils peuvent quasiment toucher le joueur. Les spectateurs peuvent quasiment toucher aux joueurs, tu sais. Fait que, non, je pense que, mais je te dis, Danny, dans les séries, la seule affaire, c'est qu'il n'y aura pas un avantage énorme de jouer chez toi. Tu veux dire?
Ouais.
Parce que tout le monde est dans le bubble, fait que c'est comme, il n'y a pas d'avantage de terrain. Faut vraiment que tu te motives toi-même.
OK. Donc, on va suivre ça de très très près. Les Raptors qui ont perdu, qui ont gagné 7 de fil, ont perdu hier. Perdu vendredi plutôt, ils ont gagné. C'est un match. Tu sais, quand on dit mauvais match au bureau, là, ben, c'était ça.
Mais je pense que c'est un match. Ils se sont assurés de la deuxième place dans l'Est.
Ouais.
Danny. Fait qu'il y a des. Faut pas oublier qu'en ce moment, beaucoup d'équipes protègent des joueurs. Calculent, bon, est-ce que c'est important là ou non? Tu veux dire, c'est vraiment les équipes là, comme les Portland Trail Blazers, puis les Spurs, si je ne me trompe pas, Dallas qui se battent pour faire les séries. Tu veux dire, on a déjà éliminé, je ne sais pas si tu avais remarqué, là, on verra plus Zion, c'est fini. Nouvelle-Orléans sont éliminés. Ils ont vraiment rien fait de bon dans la bubble. L'équipe qui m'a surpris, c'est Phoenix. Ils ont 5 victoires dans la bubble. Devin Booker, en ce moment, qui joue comme un malade, là, c'est probablement un des meilleurs joueurs en ce moment dans la NBA. Là. Puis Phoenix, il a gagné 5 matchs. On n'en parlait pas de Phoenix, là, vraiment. Là, ils ont peut-être une petite chance de faire les séries maintenant.
Oui, c'est sûr. Ben, ils ont vraiment quoi? Ils ont 5 victoires de fil, là, que tu me disais?
5 victoires de fil. Oui, c'est l'équipe qui a la meilleure. C'est l'équipe qui a le plus de victoires consécutives en ce moment. Là,
ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce qui a fait ça? Ça change? C'est quoi?
Ben, je pense que c'est une jeune équipe.
Ouais.
J'ai entendu des gens faire des commentaires sur les Canadiens de Montréal, vu qu'ils sont jeunes, à revenir avec cette pause puis revenir.
Toutes
les équipes qui sont jeunes. Ouais, comment?
C'est Carey Price qui a fait la différence, on va se le dire.
Oui, il fait la différence, mais on parle que les Canadiens sont quand même jeunes, Daniel. Tu peux me dire, là, c'est une jeune équipe. Là, je pense qu'il était plus jeune que les Pingouins, exemple, là, dans cette victoire de série-là.
Ouais.
Fait que, tu regardes certaines équipes de la NBA. Les équipes que leur noyau, c'est des gars de 23, 24, 25 ans. Les autres sont pas fatigués. Là, tu veux dire, t'as une pause, tu recommences. Fait que les équipes qui sont un peu plus vieilles sont peut-être un peu plus taxées par rapport à la période d'avoir arrêté, pour ça de recommencer, puis d'être dans une situation comme ils sont. Mais je pense que Phoenix, c'est vraiment avec Ayton, avec Booker, ils ont une belle jeune équipe. Monty Williams, un jeune coach, un très bon entraîneur. Mais je pense qu'ils ont surpris tout le monde en ce moment. T'sais, est-ce qu'ils vont faire les séries? Peut-être pas, là, parce qu'il faut qu'ils passent. Je pense qu'il faut qu'ils passent par-dessus Portland puis par-dessus San Antonio. Mais c'est quand même très intéressant.
Ouais, OK. Du côté des Raptors, écoute, il y a un joueur que je m'attends qui emmène beaucoup, c'est OG Anunoby. J'ai-tu de la misère à le prononcer?
C'est correct. OG Anunoby. Sais-tu quoi? On va juste dire OG. Pas de nom de famille, OG.
Ouais. Donc,
on va garder ça.
On va garder OG. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est la carte cachée.
Ah, c'est absolument tout le monde. Ouais. Tous les spécialistes aux États-Unis, tout le monde en parle. Je sais pas si tu as eu la chance de voir le match contre les Lakers. Là. Écoute, c'est lui qui surveillait LeBron. Il a scoré, il a rentré ses 3 points. Tu sais, il est comme quoi, 6 pieds 9, 6 pieds 10, il est physique, il est athlétique. Mais c'est un. Puis tu sais, il a vraiment amélioré son tir extérieur. Puis tu sais, en ce moment, c'est tout un joueur défensif. C'est oui, Kawhi est parti, mais Toronto. En ce moment, là, ça fait pas de différence. Est-ce que la différence du départ de Kawhi va se faire sentir dans les séries puis dans les matchs très importants? Peut-être. Mais je pense que Siakam, OG, ça va vraiment être
avec
Kyle Lowry. Oui, ça va être. Là, c'est un travail d'équipe. Là. On peut pas juste dire, OK, là, on s'enlève, on donne le ballon à Kawhi. Il faut vraiment que ça. Puis est-ce que Siakam peut prendre ce rôle-là? Ça serait intéressant de voir dans les séries. Parce que les séries d'année, là, ça prend un closer.
Ouais.
Okay. Puis c'est qui le closer des Raptors en ce moment? Ça devrait être Pascal Siakam. Ça peut être Kyle Lowry, mais on se souvient des années passées, Kyle Lowry choquait dans les playoffs. Kyle Lowry, là, c'était des matchs là, de 2 points puis des 2 en 22 du terrain. Là, fait que ça serait intéressant
Lowry,
de voir.
En passant de Kyle Lowry, là, Peter Yiannopoulos qui dit que c'est le meilleur joueur de l'histoire des Raptors. Il me semble que je sais pas. Là,
J'adore Peter. Il aime ça dire des choses pour faire parler le monde. Il nous fait parler, mais non. Je suis pas d'accord avec lui. C'est sûr que son opinion, tout le monde a le droit à son opinion, Danny. Toi et moi, on est d'accord que Vince Carter, c'est probablement le meilleur joueur de l'histoire des Raptors pour tout ce qu'il a fait. Il a peut-être pas amené un championnat, mais il a mis Toronto sur la map. Le joueur, pour moi, numéro 2, c'est le joueur qui les a préparés à l'arrivée de Kawhi puis à gagner parce que Kawhi, c'est le closer, mais DeMar DeRozan, là, pendant les 3-4 dernières années, Danny, il était phénoménal. Là.
Ouais.
C'est juste que DeMar DeRozan, dans les séries, il performait pas bien, puis Kyle Lowry performait pas bien dans les séries, mais que pour moi, DeMar DeRozan, je dirais que ça serait le deuxième joueur de l'histoire. Je mets Kawhi, il y en a qui le mettent premier, mais il a joué une année.
Ouais.
Est-ce qu'on donne une année? Il est arrivé au bon, il est arrivé quand le fruit était mûr. Il est arrivé, puis c'était comme, OK, tu peux cueillir. On n'a pas laissé DeRozan cueillir la pomme, là, mais on a laissé Kawhi cueillir la pomme. Fait que je mettrais troisième. Puis peut-être que Kyle Lowry, je pourrais le mettre quatrième.
Ah, c'est incroyable.
Mais c'est pas le meilleur joueur de l'histoire des Raptors, je m'excuse, non, absolument pas.
Ben, je suis bien d'accord avec toi là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, les Lakers, ça va pas bien, hein?
Ben, ils se sont assurés de la première place dans l'Est.
Ouais.
Et, excuse-moi, dans l'Ouest. Puis après ça, on met la pédale. Là, il y a un match qu'Anthony Davis puis LeBron n'a pas joué. Je m'inquiète pas vraiment pour les Lakers. Puis en ce moment, comme je te dis, c'est plus une question de stratégie, de repos, de s'assurer qu'il y a certains joueurs qui ont une opportunité de plus jouer. Fait que, tu sais, c'est pas la même. Comment je peux expliquer ça, Danny? C'est pas autant important pour des Bucks, pour les Bucks de Milwaukee, pour Toronto, de tout gagner le match à tout prix. On va essayer des choses, ou Los Angeles, ou même les Clippers. Les Clippers, je pense qu'hier, ils ont perdu contre les Nets, là, tu comprends-tu?
Ouais.
Fait que c'est pas la fin du monde, selon moi. Il faut que ces équipes-là jouent, ben, en tout cas, les Clippers et les Lakers jouent mieux. Mais en ce moment, c'est plus stratégie, Danny, au niveau de dire, tu sais, est-ce qu'on met la pédale au fond ou non, là? Je pense que on attend que les séries commencent, là, pour mettre la pédale au fond. Puis Los Angeles est assuré de finir premier pour avoir l'avantage du terrain. Mais c'est quoi l'avantage?
C'est quoi l'avantage? C'est exactement ça. On peut dire que ça ne vaut pas grand-chose en ce moment, l'avantage du terrain.
Danny. Ouais. Los Angeles, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait les séries, je pense. Ça faisait peut-être. Ouais, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait les séries. Ça fait au-dessus de 4-5 ans qu'il n'a pas fait des séries, ça faisait au-dessus de 10 ans qu'il n'a pas fini premier. Il y a beaucoup de choses qu'avec LeBron et Anthony Davis, ils ont fait cette année que ça faisait longtemps que Los Angeles n'avait pas fait. Los Angeles est redevenu ce qu'ils étaient pendant les grosses années là, de la gloire des Lakers. Là.
Ouais, effectivement. Pascal, on se reparle quelque part la semaine prochaine, dans 2 semaines?
Ça va me faire plaisir, Danny. Quand tu es prêt, moi je suis prêt.
Notre ami Pascal Jobin qui nous parlait de la NBA.